BFM Radio. BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Affaire suivante, numéro 244. Soyez les bienvenus au sommaire. Cette reconstitution en cours en ce moment même à Nanterre pour tenter de comprendre comment est mort Naël. Ce jeune homme de 17 ans a été tué par un tir à bout portant, tir d'un policier mis en examen pour homicide volontaire. Cette reconstitution permettra-t-elle de connaître la vérité ? La réponse dans un instant.
Marianne Marinescu, 73 ans, a été remise en liberté conditionnelle il y a quelques jours. Mais la question reste toujours la même, coupable ou innocent ? Car il reste mis en examen pour les meurtres en 1993, meurtres atroces, de sa femme et de sa fille de 13 ans. Certes, il a un alibi solide, contredit aujourd'hui par des expertises ADN, on en parle dans un instant.
Et puis, ils sont souvent le dernier espoir de familles qui attendent des réponses. Des familles qui ont un proche qui est porté disparu depuis des mois, depuis des années. De plus en plus de citoyens s'engagent pour devenir des détectives et enquêter de façon amateur. Ils fouillent Internet, ils traquent le moindre détail et souvent, ils trouvent qui sont ces enquêteurs amateurs. La réponse dans la deuxième partie de l'émission.
Allez, affaire suivante, c'est tout de suite.
BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
C'est une image qui a choqué tout le monde, celle d'un policier qui tire à bout portant sur le conducteur d'une Mercedes jaune. Cette image date du 27 juin 2023. Ce jour-là, Naël, 17 ans, avait refusé de s'arrêter et entamé une course-poursuite d'une vingtaine de minutes avec deux motards de la police des Hauts-de-Seine. Naël est décédé. Le policier, auteur du tir, est mis en examen pour homicide volontaire. Alors que s'est-il exactement passé ? Pour le savoir, une reconstitution est en cours à Nanterre, là où tout s'est exactement déroulé le 27 juin. Que va apporter cette reconstitution ? Comment est-elle organisée ? On va tout vous expliquer dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce 27 juin avec Elisa Tran.
Il est environ 8h du matin quand à la sortie du commissariat, deux policiers repèrent une Mercedes de location qui circule dans la voie de bus. Sur leur moto, gyrophares allumés, ils tentent alors de l'intercepter. Mais le conducteur de la voiture accélère brusquement, grille des feux rouges et passe des carrefours à pleine vitesse. L'analyse de la vidéosurveillance révélera plus tard qu'il a failli percuter un cycliste et un piéton. Le véhicule est finalement bloqué par la circulation. À ce moment-là, les policiers descendent de leur moto et s'approchent de la vitre du conducteur. Derrière le volant, Naël, 17 ans. L'un des motards, arme pointée, lui ordonne de couper le moteur. Quelques secondes plus tard, il tire. En garde à vue, il fournira ses explications.
Au cours de ses auditions, le policier a expliqué son geste par la volonté d'éviter une nouvelle fuite du véhicule, par la dangerosité du comportement routier du conducteur, induisant chez le policier la peur que quelqu'un soit renversé ou de voir son collègue plus avancé dans l'habitacle du véhicule blessé par le mouvement de cette voiture.
Ce matin du 27 juin 2023 à Nanterre, les deux brigadiers ont été pris à partie par des passants. La vidéo du tir mortel a été diffusée sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, des violences urbaines éclataient un peu partout en France.
Et invité d'affaires suivantes, Damien Merchat, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat, ancien commissaire de police. En tant qu'avocat, vous avez notamment défendu des policiers dans les affaires Ziad, Bouna et Théo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que votre regard, à la fois de commissaire et d'avocat, sera particulièrement précieux pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Avant de vous entendre, on va aller sur le terrain, rejoindre l'un des envoyés spéciaux de BFM TV, Maxime Brandstetter. On suit depuis ce matin, 9h, le début de cette reconstitution. On vient de revoir les images avec Elisa Tranin de ce 27 juin. Elle pose évidemment beaucoup de questions. On va décrypter tout ça avec vous, vous qui connaissez parfaitement ce dossier. D'abord, dites-nous, qui participe à cette reconstitution depuis 9h ce matin ?
Ben écoutez, d'après nos informations, il y a beaucoup de participants. Il y a évidemment les deux policiers, le policier qui a tiré, Florian M, et le policier qui était avec lui, Julien L. Ces deux policiers qui sont équipés de gilets pare-balles, mais presque tout le monde est équipé de gilets pare-balles, nous disent des témoins, mais les policiers qui sont aussi cagoulés, qui sont là pour rejouer la scène. Il y a aussi les deux passagers de Nahel M, parce que Nahel M, quand il était dans la voiture et qu'il se fait tirer dessus, il avait aussi deux passagers à l'arrière. Ils sont tous les deux là pour témoigner. Et il y a aussi beaucoup d'autres témoins, car dans ce dossier, on sait qu'il y a beaucoup de témoins de la circulation. Il y a la témoin qui avait pris cette vidéo, qui avait enflammé les réseaux sociaux. Il y avait les passagers des autres voitures à côté. Voilà, tous ces gens qui sont aussi présents, tous en gilet pare-balles, pour pouvoir raconter leur version de l'histoire, raconter ce qu'ils ont vu, et pour aider les juges d'instruction à reconstituer la scène et essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé.
Peut-être pour nous éclairer s'il y a ces mesures de sécurité qui sont prises, c'est parce qu'il y a un climat de tension particulier ?
Il n'y a pas forcément de climat de tension particulier à l'heure où on se parle, mais je vous l'ai dit, tout le monde est en gilet pare-balles. C'est bien la preuve qu'ils veulent s'assurer une certaine sécurité. Il y a aussi une volonté que ça se passe à l'abri des regards. Vous savez, il y a le secret d'instruction. Vous le voyez derrière moi, la place Nelson Mandela de Nanterre, qui est quand même un axe de circulation, eh bien, elle est bloquée depuis ce matin, interdite à la circulation. Nous, les journalistes, on nous tient à l'écart. Il y a des barrières de chantier siglées préfecture de police de Paris qui ont été installées pour que cette reconstitution se déroule le plus possible à l'abri des regards et dans le secret de l'instruction.
Vous restez évidemment avec nous, Maxime. Damien Merchat, on va essayer aujourd'hui de remettre en place une situation qui date d'il y a un an à peu près et apprécier le comportement d'un policier. Comment ça se passe, une reconstitution de ce type-là ?
Alors, une reconstitution vise à aligner toutes les versions données par tous les témoins et éventuellement par les personnes mises en examen. Mmh. Parce que dans ce cas, il y a apparemment quatre témoins, enfin deux mises en cause et deux témoins. Et donc la question pour les magistrats instructeurs, c'est de vérifier que point par point, à la limite seconde par seconde, chaque version est compatible avec les autres. Parce que nous avons tendance à penser que lorsqu'il y a quatre versions identiques, on est près de la vérité. En revanche, lorsqu'il y a des versions extrêmement différentes, il est possible de supposer qu'il y a une version probablement involontairement erronée. Vous savez, la mémoire étant ce qu'elle est, elle est faillible, et effectivement, les souvenirs peuvent, sous le coup de l'émotion, se dégrader, et les versions peuvent ne pas être cohérentes. Et alors, l'intérêt de mettre les versions les unes par rapport aux autres, c'est que lorsqu'on prolonge tous ces témoignages, il apparaît très vite que, en réalité, il n'y a qu'une seule version qui est cohérente et qui ressemble un petit peu à la vérité.
On parle d'un tir mortel, maître, donc il y a l'élément humain, les témoignages, vous l'avez dit, c'est quatre personnes qui vont parler. Il y a aussi les éléments techniques. Depuis, sont rentrés dans le dossier d'instruction des éléments qui ont été communiqués par la médecine légale, médecin légiste, par la balistique lésionnelle aussi, oui. Balistique lésionnelle qui consiste à mesurer les distances de tir, la trajectoire de la balle. Il y a une seule balle qui a été tirée, la trajectoire. Le policier dit « je visais vers le bas, donc vers les jambes du conducteur, la balle atteint le conducteur dans un bras » et va se loger dans le torse, hein, traverse le bras, va dans le torse. Donc tout ça, comment est-ce qu'on en tient compte ? Le juge a ses éléments techniques avec lui ? Les juges ont les éléments techniques ? Ce que vous nous dites ne correspond pas à l'angle de tir dans le corps de Nahel, hein, pardon pour ces précisions.
Le magistrat ne dira pas, au cours de la reconstitution, à un des mis en examen, ce que vous dites ne correspond pas à la balistique. Normalement, le mis en examen à un avocat, je les connais, talentueux, qui connaissent très bien les affaires de police, qui ont également les expertises et qui ont dû s'entretenir avec leurs clients en leur disant si c'est le cas. Pour le moment, nous n'avons pas d'éléments, puisque je vous rappelle qu'il y a le secret de l'instruction,
oui, bien sûr.
Paraît-il. Et donc, l'avocat lui a peut-être dit si c'est le cas. Votre version n'est pas corroborée par les expertises. Parce que c'est probablement un des éléments qui est le plus difficile à intégrer, c'est que le magistrat instructeur dispose, lui, de tous les éléments, absolument tous. c'est-à-dire les témoignages de mise en cause, les témoignages des témoins, les expertises balistiques, mais il y en a d'autres. Il y a des expertises psychologiques, psychiatriques. Il y a également, ce qui est jamais neutre, les dossiers en l'espèce pour les fonctionnaires de police, à savoir quelle a été leur carrière jusqu'à maintenant. Y a-t-il déjà eu de leur part un usage de l'arme? Y a-t-il eu des problèmes de violence victime ou auteur? Donc il y a tous ces éléments qui font que le magistrat instructeur, à la fin de son instruction, aura une intime conviction et effectivement prendra une décision ou bien de non-lieu ou bien de renvoi.
Intéressant parce qu'on comprend qu'il s'agit de faire émerger la vérité et les contradictions qui permettront donc de faire émerger cette vérité. Pour cela, il faut être au plus près des réels. Maxime, il y a une voiture jaune qui a été amenée sur les lieux, c'est-à-dire une voiture similaire à celle que conduisait Naël le 27 juin.
Oui, une voiture jaune qui a été installée pour pouvoir rejouer la scène au mieux. Mais on sait même qu'il y a plus. On a vu deux motards arriver, deux motos de police, sans doute aussi pour rejouer la scène. Il y avait une voiture VTC, un témoin qui était dans un VTC. Eh bien, des témoins nous racontent qu'il y a aussi une voiture qui est là pour jouer le VTC. On en parle aussi de figurants qui sont là pour jouer les différents personnages. Les policiers sont sûrement dans leur tenue, avec leur casque de moto, pour reproduire exactement le champ de vision. Vous l'avez bien compris. Il y a un souci d'exactitude. Le but, c'est de coller au plus près de ce qui s'est passé pour savoir s'il y a des contradictions, si certains ont menti dans leurs auditions.
Maxime, il y a la scène du tir. Il faut rappeler qu'elle est précédée, que ce tir est précédé d'une course-poursuite qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Ça, on ne va pas le rejouer, mais est-ce qu'on va quand même peut-être faire le trajet, regarder ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus?
Alors, on n'a pas plus d'informations sur est-ce qu'ils vont rejouer le trajet ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que de là où on se trouve, on a l'impression que depuis ce matin, la scène est bien fixée à un seul endroit qui est l'endroit du tir. Alors, est-ce qu'après, ils comptent se déplacer et rejouer la différente scène? On n'a pas forcément cette information, mais vous avez raison de le souligner, parce que cette scène, elle compte aussi, parce que dans les raisons que le policier indique pour justifier son tir, il évoque notamment la conduite dangereuse de Naël M qui aurait failli frôler au moins deux piétons et qu'il aurait eu peur que dans sa poursuite, il renverse à nouveau quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils vont rejouer cette scène ou pas? On n'a pas cette information pour l'instant à ce moment de la journée.
Maxime, est-ce qu'on sait si la mère de Naël assiste à la reconstitution?
Oui, on peut vous confirmer qu'elle est effectivement présente. Elle assiste à la reconstitution. Alors, est-ce qu'elle y assiste, j'ai envie de dire, en tant que premier spectateur? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a la zone qui est bouclée et la zone de la reconstitution qui est en fait plus réduite. Une zone qui est d'ailleurs, on ne la voit pas sur les images parce qu'ils nous ont mis à l'écart, mais qui est protégée par des barrières de chantier siglées préfecture de police de Paris. On sait que la mère de Naël est présente dans le dispositif. Est-ce qu'elle est présente vraiment à l'intérieur des barrières, c'est-à-dire au plus près pour voir avec le policier? Ça paraît étonnant au vu de l'impact émotionnel que ça a chez elle, mais elle est sûrement à l'extérieur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est présente et qu'elle voit plus ou moins ce qui se passe.
Merci beaucoup, Maxime. Vous restez évidemment avec nous. Maître, oui, vous vouliez réagir.
Oui, pour répondre à votre question, à propos de ce qui s'est passé avant, il faut bien, et pour poursuivre sur la question que Dominique posait, il faut bien comprendre que les motards, leurs motos sont GPIC, c'est qu'elles sont oui. balisées, et que dans les 20 minutes précédentes, le parcours des motos a été reconstitué. Oui. Il y a également, comme partout, des caméras vidéo dans toutes les rues, et donc ce qui a précédé la scène elle-même a été, je n'en doute pas une seule seconde, entièrement reconstitué, oui. si ce n'est avec de la vidéo, au moins avec le marquage des motos de la police nationale.
Ces 20 minutes sont importantes parce qu'elles créent un climat pour ces deux policiers. Et là, je m'adresse à l'avocat que vous êtes, qui avait défendu des policiers, à l'ancien commissaire aussi que vous êtes. Comment fait-on pour apprécier la réaction d'un policier dans une situation complexe? C'est-à-dire que comment on détermine si il a eu peur, on a le droit d'avoir peur, si il a agi trop vite, s'il a agi trop spontanément, s'il était véritablement en danger? Comment on fait? C'est très dur, parce qu'on apprécie une situation à froid.
Écoutez, il n'y a pas d'autre question que celle que vous venez de poser. Il n'y en a pas d'autre. Comment, pourquoi un fonctionnaire de police, en une seconde et demie, deux secondes, pas plus, comment fait-il pour prendre une décision? Et surtout, comment fait-il pour prendre la bonne décision et comment fait-il pour ne pas prendre la mauvaise? Et il y a cette... il n'y a pas d'autre question que ça. C'est-à-dire qu'au moment où il prend la décision de mettre pied à terre et d'aller contrôler le véhicule, effectivement, la décision pour la prendre, il met une seconde ou deux, il met à terre, il sort son arme. Pourquoi, à un moment, l'utilise-t-il? Ça, c'est même pas l'enquête qui va le déterminer. C'est lui qui va s'expliquer si tenté que un mois, trois mois ou un an après, il puisse le faire.
Bon, je l'ai juste une question rapide. Il faut tenir compte quand même de le fonctionnaire de police est un motard qui conduit une énorme, une 1200, une BMW, c'est des motos qui pèsent 250 kilos, hein, avec le plein, qui a poursuivi une voiture pendant 20 minutes, qui a le cœur qui bat, qui a peur de tomber lui, de renverser quelqu'un. Donc, de ça, on n'en tient pas compte, en fait.
C'est bien.
On tient compte que de cette balle qui est partie et des conditions dans lesquelles elle a été tirée.
Mais c'est bien pour ça, d'abord, que policier, c'est un métier extrêmement difficile, que dans des situations de stress comme celle dans laquelle il était, c'est encore plus difficile. Et à la limite, dirais-je, sur une poursuite, il sait à peu près ce qui se passe. Sauf qu'il y a un moment, lorsque tout est arrêté, et qu'il s'approche du véhicule, là, il ne contrôle plus rien, il n'a aucune idée de ce qui peut se passer, et à mon sens, c'est une spéculation, c'est la raison pour laquelle il en a déduit que le garçon ou le conducteur était dangereux, et c'est pour ça qu'ils chaussent sur leurs armes. Parce qu'ils ont des raisons objectives, objectives de penser que la personne qui est en face d'eux est potentiellement dangereuse.
On verra effectivement ce qui ressort de cette reconstitution. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes. Merci à Maxime Brandstetter, avec qui on suit évidemment cette reconstitution sur BFM TV. Vous restez avec nous dans un instant. L'incroyable histoire de Maria Marinescu. Cet homme de 73 ans vient de passer 3 ans en prison. Il a été libéré le 25 avril dernier en attente d'un potentiel procès. Il est en effet soupçonné d'avoir tué sa femme et sa fille il y a 31 ans. Meurtre absolument barbare. Mais il a toujours clamé son innocence. Il a d'ailleurs un alibi. Sujet aujourd'hui à bien des questions. On va vous raconter tout ça. À tout de suite.
BFM Radio.
h 22 sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite d'Affaires Suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Mariam Marinescu est-il coupable ou innocent? Son alibi est-il valable ou non? Ses avocats ont obtenu sa remise en liberté conditionnelle il y a quelques jours seulement après 3 années passées derrière les barreaux. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas un procès pour Marian Marinescu. Il est en effet le principal suspect dans le meurtre de sa femme et de sa fille, un double meurtre sauvage qui remonte à 1993. Pendant 28 ans, Marian Marinescu a été protégé parce qu'il avait un alibi. Alibi jugé solide, mais qui en 2021 est apparu beaucoup plus fragile. Alors que va-t-il se passer maintenant pour lui? Son avocate sera notre invitée dans un instant. Mais d'abord, retour sur cette affaire aux très nombreux rebondissements avec Elisa Trana.
Ce soir de janvier 1993, il fait déjà noir dans la rue de la Cerisaie quand les gendarmes entrent dans la maison des Marinescu, alertés par le patron de Michel, l'épouse. La mère de famille gît nue dans sa chambre, égorgée. Sa fille, Christine, 13 ans, a elle aussi été tuée à coups de couteau dans sa chambre. Elle porte notamment un jean déboutonné. Les gendarmes ne relèvent aucune trace d'effraction, aucun vol. Ils interrogent alors Marian, le père de famille, tout juste rentré de Roumanie, où il a passé les fêtes avec son fils de 8 ans. Son visa atteste de sa présence là-bas. Le chef d'entreprise se mobilise pour retrouver le coupable.
L'espoir de la famille, c'est de trouver les assassins, que des gens de bonne volonté veuillent bien apporter leur témoignage.
Le père de famille est-il sincère ce jour-là? Après 28 ans d'investigation sans résultat, les magistrats décident de reprendre son emploi du temps et envisagent cette hypothèse. Et si Marian Marinescu avait fait l'aller-retour en voiture de la Roumanie à l'Isère en moins de 48 heures? Son alibi tomberait. À ces doutes s'ajoutent les résultats d'analyses plus fines décelées.
Le laboratoire d'analyse génétique de la gendarmerie nationale a mis en évidence de nombreuses traces de sperme de Marian Marinescu sur le pantalon de sa fille Christine.
En juin 2021, Marian Marinescu est placée en détention provisoire, suspectée du meurtre de son épouse et du viol et meurtre de sa fille. Libérée sous bracelet électronique il y a 2 semaines, cet homme de 76 ans clame toujours son innocence, soutenu par son fils.
Et pour reprendre cette affaire, essayer de comprendre ce qui va se passer maintenant. Nos invités, Maître Solange Doumic, bonjour. Merci bonjour. Beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'une des avocates de Marianne Marinescu. À vos côtés, Louise Colcombet. Bonjour Louise, bonjour. Journaliste police-justice au Parisien. Merci d'être avec nous. On va reprendre évidemment le fil de cette affaire. Peut-être pour commencer, d'abord un mot de l'état d'esprit de votre client aujourd'hui, libéré le 25 avril, après le travail acharné de ses avocats. Vous avez remporté ce succès. Comment va-t-il aujourd'hui, après 3 ans en prison ?
Il est d'abord soulagé, mais il le sera bien plus quand enfin il aura été reconnu innocent, comme il le proclame depuis le début.
C'est évidemment tout l'enjeu de cette affaire, parce qu'il a été libéré, liberté conditionnelle. On ne sait pas encore s'il y aura un procès ou pas ?
Non, on ne sait pas encore.
Et ça fait partie du mystère. On va reprendre cette affaire pour essayer de comprendre. D'abord, tout commence avec la découverte de la mort de sa femme et de sa fille. On peut dire que c'est un meurtre barbare, Louis. C'est une scène de crime absolument horrible.
Oui, c'est assez inhabituel. On retrouve la mère et la fille égorgées, les membres entravés. D'ailleurs, la mère, Michelle, est entravée d'une façon assez intrigante, avec des nœuds très particuliers du type qu'on enseigne à la marine, qui va d'ailleurs conduire les enquêteurs à se poser des questions, essayer de retracer ou le passé militaire de Marianne Marinescu ou d'autres personnes dans le coin pour essayer de voir si s'il n'y a pas là une espèce de signature. Et effectivement, elles ont été... égorgé. Enfin, c'est vraiment. Je crois que tous les enquêteurs qui étaient sur place ce jour-là sont restés marqués par cette scène.
Il n'y a pas eu d'effraction, maître. Je parle sous votre contrôle. Quelles vont être les hypothèses au début ? On va s'interroger évidemment sur le rôle de Marianne Marinescu qui n'est pas présent ce jour-là à Sassenage.
Marianne Marinescu est en Roumanie à Buzău. On en a la preuve. Évidemment, quand une.
La preuve, c'est les témoignages de sa famille.
Les témoignages de sa famille, des appels téléphoniques passés par son associé de France vers lui, des appels téléphoniques qu'il a passés, lui, à sa famille. Ça, on n'en a pas la preuve puisqu'ils partent de Roumanie. Oui. Mais en tout cas, on a des attestations très claires. Bien sûr, on recherche puisqu'il n'y a pas d'effraction. C'est malheureusement courant parce que la femme de Marianne Marinescu, Michelle, laisse toujours la porte ouverte quand elle est chez elle. Il suffit de pousser pour entrer. Donc, c'est quelque chose qui ne veut pas dire en soi-même qu'il n'est pas la preuve que c'est quelqu'un de connu, oui, qui est entré. Mais malgré tout, on cherche sur l'entourage. Donc, on vérifie. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que par le passeport, par la voiture, par les témoignages, on voit que Marianne Marinescu était à Buzău. Donc, ce n'est pas possible que ce soit lui.
Quelles sont les autres hypothèses à l'époque ? Puisqu'on se dit Marianne Marinescu ne peut pas être le coupable, il était en Roumanie. On va chercher ailleurs, on va chercher qui ?
Bien sûr, on cherche, on trouve. Il y a d'autres hommes dont on soupçonne que ce pourrait être eux. Les pistes ne sont pas approfondies complètement parce qu'il y a des éléments qui détournent de l'enquête. Mais ça reste comme les crimes commis par le grêlé, comme certains crimes qui mettent beaucoup de temps à être élucidés ou qui ne sont pas élucidés, un crime très mystérieux.
On va enquêter évidemment, j'imagine, Louis, sur la vie aussi de cette famille, sur la vie de ce couple. On va voir que l'ambiance n'était peut-être pas forcément idéale.
Alors, il y avait eu des tensions dans le couple. Il avait été question de divorce. Ça avait été abordé dans le couple. Et puis, semble-t-il, voilà, les enfants, le jeune âge, et puis avait fait en sorte que le couple s'était remis, en tout cas, sur de bons rails. Néanmoins, il décide de passer ce Noël de façon séparée, ouais, avec Marianne Marinescu et son fils en Roumanie, et Christine et sa mère Michelle à Sassenage. Ce qui va, du coup, nourrir aussi un peu un mobile pour les enquêteurs à l'époque de penser que peut-être le mari aurait voulu supprimer son épouse. Mais en réalité, il n'y a pas de choses qui émergent, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de double vie, ils travaillent ensemble dans la même entreprise, rien n'émerge, ils n'ont pas d'ennemis. Voilà, cette piste de l'entourage, il va rester un peu stérile.
Et Louise, maître, sur son alibi, hein, solide, il est en Roumanie, ça se passe en France, il est à Buzău, ça se passe... On dit que les policiers ont des doutes quand même, qu'il aurait pu trouver un moyen de revenir en France. Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça n'existe pas ? Est-ce que c'est possible ?
Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On est en 1993. La Roumanie ne fait même pas partie de l'espace Schengen de l'Union européenne. Passer les frontières, c'est quelque chose de compliqué. On a vérifié qu'il n'avait pas passé les frontières. À l'époque, les routes n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. En Roumanie, il y avait même des charrettes. C'était long. Il ne pouvait pas faire l'aller-retour en moins de 48 heures. C'est une certitude. Il aurait fallu qu'il passe à quatre pattes dans les buissons, en plus. Enfin,
non. Son fils dit qu'il est là-bas. Sa sœur dit qu'il est là-bas. Il y a ces coups de fil dont vous avez parlé. Vraiment, matériellement, il n'y a pas moyen de...
Non, c'est pas possible. Passer. Ce n'est pas possible.
Donc, c'est pas lui.
Non, ce n'est pas lui.
Si on n'est pas l'avocat de Marianne Marinescu, est-ce que certains mettent des doutes sur le fait qu'il ait pu faire cet aller-retour?
Alors moi, j'ai pas accès à l'enquête, mais les enquêteurs d'aujourd'hui estiment qu'ils auraient pu trouver un trou de 48 heures dans son emploi du temps. Néanmoins, c'est vrai que par curiosité, j'ai regardé différentes applications. Aujourd'hui, avec les routes qui existent, qui sont meilleures qu'à l'époque, on estime à entre 21h et 25h, selon les sites, ce que vous regardez, l'aller simple. Ça fait quand même beaucoup de chemin pour, en plus, commettre un crime, donc en évitant les postes frontières, tout en laissant son ADN. Bon, ça paraît compliqué,
c'est faisable, mais compliqué. Et repartir, Louise, et repartir en Roumanie en voiture, sans dormir.
Sans dormir. Et je complète les 21h à 25h dont parle Louise. C'est sans pause. Donc, c'est pas possible de faire ce trajet-là sans pause. Et donc, il faut faire l'aller-retour, commettre le crime, et tout ça dans un délai record, mais c'est plus Marian Marinescu, c'est Superman.
À ce stade, quand on vous écoute, on se dirait ce dossier est plié, ce n'est pas lui. Sauf que voilà, les choses vont changer, le dossier va être repris, relancé en 2018 avec de nouveaux actes d'investigation. Et Louise, va y avoir des nouvelles analyses qui vont apparaître et qui là vont rabattre les cartes et vont conduire à la mise en examen de votre client et à son incarcération en 2021. C'est quoi ces nouvelles découvertes?
Alors comme souvent, quand on a des cold cases dont on ne sait pas, voilà, on ne sait plus quoi trop faire. Ouais. Il y a des scellés, évidemment, on repasse à la moulinette de l'ADN, puisque aujourd'hui, ça permet de résoudre un certain nombre d'affaires. Et là, surprise, on va retrouver des gouttelettes assez fines de sperme qui sont celles qui appartiennent à Marian Marinescu.
Sur le pantalon?
Sur le pantalon, effectivement, 48 traces sur le pantalon que portait sa fille le jour où elle a été tuée. C'est un élément un peu massu, hein, donc qui va conduire notamment à son placement en garde à vue, parce que ça remet tout l'échafaudage intellectuel de l'époque est remis à plat et on se repenche sur sa possible implication.
En mettre ce sperme, comment il est arrivé là sur le pantalon de sa fille de 13 ans?
C'est là où il y a une très très grosse, très gros risque d'erreur judiciaire là, parce que ces 48 traces, évidemment, si c'était des traces de sperme, elles auraient été vues dès l'origine, dès 1993.
On n'avait peut-être pas les mêmes outils technologiques.
Mais même sans outils technologiques, quand il y a des traces de ce type, quand il y a des traces de ce type, on les voit à l'œil nu. Et puis, pas les mêmes outils technologiques, mais quand même des microscopes, des analyses, une recherche ADN dès l'époque, une recherche ADN de 1993 à 2021, à intervalles réguliers, des expertises, en gros, tous les 2-3 ans, où on se dit, tiens, on va chercher autre chose, et on ne trouve rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 2021, on est capable de trouver de l'ADN, même de l'ADN de contact. Quand on touche, on peut trouver quelque chose, alors qu'à l'époque, on pouvait pas du tout. Cet ADN de contact, ça peut aussi être là, en l'espèce quoi? Simplement dans le panier à linge sale, un contact avec un linge sale appartenant à Marian Marinescu et une contagion sur le pantalon de sa fille. Il est manifeste que ce pantalon a été lavé plusieurs fois avant l'analyse qui est faite et avant que ces traces ont été lavées plusieurs fois. Donc,
attendez, je ne comprends pas. Le pantalon, elle le porte sur elle quand on la retrouve?
Oui.
Ce pantalon, il ne fait pas partie des scellés?
Si.
Il va être lavé par qui?
Il avait été lavé, les traces de sperme qui ont été trouvés sur ce pantalon ont été lavés plusieurs fois avant d'être trouvés.
Et c'est vrai que le sperme reste, on a eu une affaire judiciaire, un fait entrer l'accusé, dans laquelle il y avait une histoire de sperme comme ça, un pantalon avait été lavé, on retrouvait du sperme dessus.
Exactement, et là, c'est manifeste que ces traces sont des traces qui ont été lavées, c'est ça que je voulais dire.
D'accord.
Donc, ce n'est pas le jour des faits.
Contamination ancienne.
Avant, contamination ancienne. 48 petites traces réparties un peu partout, mais c'est manifeste que c'est dans le panier à linge sale ou quelque chose de ce type. Quelque chose s'est passé, mais en tout cas pas ce qu'on reproche à Marian Marinescu. Et c'est un peu facile de relire l'histoire à partir de ces traces ADN en disant, ah ben voilà, maintenant on a la preuve.
Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, il est mis en examen donc pour assassinat sur sa femme, meurtre sur sa fille, mais on considère que il aurait commis un viol en même temps qu'il aurait tué sa fille. Ouais. Ce serait contemporain des faits. Ce que dit Maître Doumic, c'est que de l'ADN, on le présente comme la reine des preuves aujourd'hui, mais c'est vrai qu'un ADN, on ne peut pas le dater. Et dans d'autres dossiers, on le voit, où il faut prendre ça parfois avec précaution, enfin toujours même avec précaution, pour ne pas s'embarquer peut-être dans un raisonnement trop hâtif. Voilà, donc il a quand même aussi cette incrimination qui est douloureuse pour lui, on l'entend, d'avoir violé sa fille, voilà, et d'être un père incestueux.
Et pour lui, c'est atroce. Il a perdu sa femme, il a perdu sa fille, et il se retrouve, mais plusieurs dizaines d'années après, accusé tout d'un coup de les avoir assassinés, et en plus d'avoir une relation incestueuse avec sa fille. C'est épouvantable. C'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, il est soulagé d'un certain côté, mais il ne le sera que quand il sera blanchi et son honneur réhabilité.
Il nous regarde aujourd'hui ?
Ah oui, sûrement.
D'accord. Est-ce que, s'il n'y a pas de procès, comment va se terminer cette affaire ? Un jour, un juge va lui dire, voilà, il y a une relaxe, on n'a rien contre vous. Première question. Deuxième question, il a fait 3 ans de prison, donc il va demander une indemnisation.
S'il n'y a pas de procès, c'est parce qu'il y aura eu un non-lieu.
Mmh. Oui, quand la relaxe, un non-lieu, oui, pardon.
Et une indemnisation. Bien évidemment, on est indemnisé quand on fait de la détention sans motif.
Pour quelle raison, mes questions de néophyte, mais pour quelle raison pourrait y avoir un non-lieu ? Parce qu'il reste des doutes. Des questions, en tout cas, je ne dis pas que c'est des preuves, mais des doutes sur cet emploi du temps. Est-ce que véritablement on peut dire qu'il n'a pas fait l'aller-retour, ces traces de sperme, le fait qu'il n'y ait pas d'autres suspects, est-ce que tout ça ne suffit pas à le renvoyer en procès ?
Tout ça, ce sont des charges. Si on n'arrive pas, mais c'est très difficile en défense, la preuve d'un fait négatif, c'est-à-dire prouver que ça n'a pas existé, c'est très difficile. Donc, pour l'instant, personne ne prouve que ça a existé, et c'est très difficile de prouver que ça n'a pas existé. Si nous réussissons, dans ces cas-là, il y aura un non-lieu. Si nous ne réussissons pas à prouver que ça n'a pas existé, il faudra qu'il y ait un procès devant la cour d'assises. Et là, il y aura normalement un acquittement, parce que nous pourrons faire le poids entre les charges et l'absence de charges.
On précise, pour ceux qui nous écoutent, qu'il a un bracelet électronique quand même.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il souhaite ? Il souhaite le non-lieu ou il souhaite le procès et il espère, j'imagine, l'acquittement qui pourrait aller derrière ?
La voie procédurale n'a aucune importance. La seule chose à laquelle il aspire, c'est de voir enfin reconnaître son innocence et de pouvoir reprendre sa vie et ce deuil qu'il a fait douloureusement. Et Christine reste présente dans sa vie au quotidien. Donc, être accusée d'avoir commis ce crime épouvantable de l'inceste sur elle, c'est atroce.
C'est un drame qui a marqué, Sassenage.
Oui, localement. D'ailleurs, le dossier n'a jamais été abandonné. Il faut souligner la constance de la famille de Michel, qui a toujours fait en sorte que le dossier reste ouvert parce qu'il y a toujours ce risque de prescription. Et une fois que c'est refermé, vous avez beau trouver quelque chose, c'est trop tard. Ils avaient même d'ailleurs passé un appel à témoins chez Jacques Pradel dans l'émission Témoin numéro 1, qui n'avait rien donné. Et donc oui, effectivement, la région était restée marquée parce que on est quand même sur une sauvagerie inouïe avec potentiellement. Un meurtrier, un ou des meurtriers d'ailleurs, qui se promènent. Et voilà, bon, c'est 30 ans plus tard maintenant, donc ça a été un petit peu oublié, mais effectivement, voilà, on a aujourd'hui ce coup de théâtre avec des moyens d'investigation qui sont compliqués, parce qu'on peut rien vérifier, enfin certaines choses 30 ans plus tard, c'est fichu. Donc on va voir comment, avec ces éléments, on part sur un non-lieu ou sur un procès qui risque d'être très intéressant à suivre, en tout cas, parce que très...
Et vous y serez, Louise, pour Le Parisien.
J'aimerais bien, oui.
Passionnant, en tout cas, de comprendre cette affaire et de voir votre travail aussi dans cette affaire. Merci beaucoup, Maître. Merci, Louise, d'être venue sur le plateau d'Affaires Suivantes. Et on continuera, évidemment, à suivre ce dossier, Maria Marinescu, dans Affaires Suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine. Près d'un millier de personnes disparaissent chaque année en France. Disparition volontaire ou involontaire. Ces affaires hantent le quotidien de nombreuses familles en attente de réponses. Bien évidemment, il y a les policiers, les gendarmes qui travaillent, mais de plus en plus de citoyens s'engagent bénévolement pour aider ces familles. L'ARPD, c'est l'Association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, compte 650 bénévoles, des bénévoles qui enquêtent et qui parfois trouvent. Ils travaillent comme des détectives amateurs ou des professionnels. C'est le cas d'ailleurs de Pauline, qui sera notre invitée dans un instant. Elle a déjà résolu 9 affaires sur les 10 qu'elle a traitées. Mais d'abord, on va se plonger dans ces disparitions mystérieuses avec Elisa Tran.
Ils se soutiennent mutuellement. Tous ont un proche qui a disparu et sont en attente de nouvelles, parfois depuis des décennies. Selon les chiffres officiels, plus de 10 000 disparitions sont qualifiées d'inquiétantes chaque année en France. L'une des plus vieilles affaires de disparition non élucidée remonte à 1972. La famille Méchino, parents et enfants, s'apprête à fêter Noël quand elle se volatilise en voiture. Éric Forêt, lui, n'est jamais rentré des courses. Son compagnon, Régis Pic, fait tout ce qui est en son pouvoir depuis 2016 pour le retrouver.
C'est horrible à vivre, de se dire est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, est-ce que... Là, on a l'impression de piétiner, on a beau nous dire, mais je vous assure que la justice travaille, on ne sait rien, nous tient au courant de rien.
Certains dossiers restent entre les mains de la justice, d'autres sont refermés ou dorment dans les tiroirs des magistrats. Une association œuvre à soutenir moralement les familles et à leur apporter des réponses. L'ARPD, assistant ces recherches de personnes disparues, peut se vanter de résoudre environ 25% des dossiers qui lui sont confiés. Elle a parfois permis de réouvrir des informations judiciaires, comme ce fut le cas pour Marie-Thérèse Bonfanti, une mère de famille disparue en 1986 à Pontcharrat en Isère, alors qu'elle distribuait des journaux. Les éléments collectés par l'ARPD ont été transmis au parquet de Grenoble et ont permis l'arrestation du suspect 36 ans après les faits.
Des enquêteurs amateurs, mais qui aident ces familles qui attendent des réponses. C'est ce que vous faites, Pauline Charpie. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enquêtrice bénévole donc pour l'ARPD, l'Association d'assistance et de recherche des personnes disparues. Ça fait 2 ans ?
Oui, c'est ça.
Vous allez nous raconter ce que vous faites et comment vous travaillez. Vous êtes détective par ailleurs, c'est ça ?
Oui, je suis enquêtrice privée généalogiste.
Intéressant, vous allez nous raconter ça aussi, évidemment. Philippe Zankevitch, bonjour, merci d'être avec nous. On vous connaît bien sur BFM TV, vous êtes vous aussi enquêteur bénévole et vous êtes ancien gendarme, c'est-à-dire que les compétences se réunissent. Pauline, on avait envie de vous recevoir parce que on se demandait comment, dans une vie, tout d'un coup, on se dit, j'ai envie, alors vous aviez déjà cette appétence de détective, mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, je ne vais pas le faire que dans le cadre de mon travail de détective, je vais aller aider des familles, je vais aller chercher pour des gens qui ont perdu un proche.
Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser que on s'engage dans cette association parce que de près ou de loin on est concerné par ce type de disparition. Alors moi c'est pas mon cas, c'est vraiment parce que je trouve que c'est la continuité de mon métier, de ma passion et de permettre de mettre à profit mon expérience et mes compétences au service d'une cause et d'aider et assister les familles en fait dans une partie de leur quête en fait.
Oui, parce que vous pourriez le faire si on était très mercantile, vous pourriez le faire payer. En fait, vous êtes détective, vous pourriez très bien aller aider ces familles et faire payer. C'est pas le choix. Là, il y a une volonté d'aider.
Oui. Vraiment, ouais.
Parce qu'elles sont dans une souffrance particulière, ces familles.
Oui, c'est une souffrance légitime. Elles sont dans une quête. Parfois, c'est des disparitions volontaires. Donc, vraiment, il y a une souffrance hein, de pas savoir si la personne est en vie. Oui, on a besoin de les assister. Aujourd'hui, les enquêteurs professionnels, la police, ils font leur enquête, mais malheureusement, ils n'ont pas le temps d'assister et d'accompagner les familles. Donc, c'est vrai que nous, on est là pour enquêter, mais plus pour les assister dans cette quête.
C'est important ce que vous dites d'ailleurs. Il n'y a pas de rivalité. L'idée n'est pas de se faire la guerre avec la RPD d'un côté ou des enquêteurs professionnels de l'autre, les gendarmes, les policiers. Vous travaillez ensemble d'ailleurs, vous qui êtes ancien gendarme. Il arrive que, je dis ça en posant la question, mais j'ai lu que ça arrivait, que des enquêteurs de la RPD aillent voir les gendarmes et les policiers en disant « Tiens, j'ai telle info, ça pourrait vous aider ?»
Oui, parce que au départ, c'est la famille qui vient demander assistance à l'association. Et quand il y a une enquête de disparition inquiétante où la police ou gendarmerie est saisie, on va les voir déjà pour se présenter et dire voilà, pour ne pas faire de mauvaises situations, on informe que quand même on est saisi par la famille qui nous demande assistance. On est, il y a jamais de problème.
C'est ce que je veux dire, vous êtes bien accueilli.
Parce que on est dans la même situation. Bon, je veux dire, ils savent qu'on n'est pas complémentaires, on n'arrive pas non plus en disant attendez, on arrive. Non, on travaille, on n'a pas les mêmes prérogatives, donc on fait attention et ça se passe très bien. Il y a pas de souci. Moi, j'ai toujours été bien accueilli, sauf dans une gendarmerie, mais ça c'est autre chose.
On va pas la citer.
Oui,
c'est
non. Mais c'est vrai. Mais
ah bon, si.
Oui, si vous voulez. Non, peu importe. Parce que là après c'est un rapport d'humain. Je veux dire, quand on arrive, parce que il y a toujours des personnes qui veulent se revaloriser et puis vous n'êtes pas dans la même cour, etc. Mais non, ça s'est passé une fois, malheureusement. Mais voilà, ça se passe généralement très bien. On nous accueille très bien. Ils comprennent la situation.
En fait, ces familles, c'est des familles désemparées qui croient pas plus en la justice, les enquêteurs, parce que les dossiers traînent un peu. Parce que vous, madame, vous êtes plus dans dans un aspect psy avec eux, d'aide, d'écoute, ou plus dans, quand même dans du côté technique, on va essayer de trouver des choses, on va vous situer où?
C'est vrai qu'il y a un peu des deux quand même, parce que quand on rentre dans la RPD, c'est pour assister, mais aussi pour enquêter. Donc, on fait les deux, mais il y a une grosse part d'écoute pour les familles et d'assistance. Hein. Parfois, il y a des dossiers qui peuvent être bloqués. On a essayé toutes les pistes, mais la famille, elle a quand même besoin de nous, en fait, pour les épauler dans des démarches avec des avocats ou autres.
Et l'écoute et les jours, pardon, l'écoute et les jours et nuits, vous avez des gens qui vous appellent parfois la nuit, qui sont complètement paumés, qui des familles qui vous disent je peux pas dormir, j'y arrive pas, pardon de vous déranger à 2h du matin, mais ça arrive ça?
Oui.
Ça m'est arrivé, ouais. Pour une petite gamine qui était partie, ouais. Mais je veux dire, faut expliquer aussi que on est quand même à 100% avec la famille. Il y a un binôme, on est en contact permanent. Mmh. Et j'explique à la famille, parce que des fois on vient nous dire oui, c'est long, on n'a pas de renseignements, etc. Donc j'explique quand même que malheureusement, compte tenu de l'événement qui se passe en brigade, bah oui, moi ça m'est arrivé d'arriver, de partir, et puis le patron nous dit, bah non, il y a un cambriolage là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à traiter. Tandis que nous, à la RPD, on se doit être près des familles, on les soutient, on les motive, et on leur fait conserver l'espoir, et on est quand même beaucoup plus disponible que les gendarmes ou la police.
Il y a un rôle d'assistance manifeste, précieux pour ces familles, et puis il y a un rôle d'enquête, Dominique qui le soulignait, c'est assistance et recherche. J'aimerais que vous nous racontiez, alors vous n'allez pas nous raconter en donnant des noms, bien sûr, mais comment vous faites? Une famille vient vous voir, elle vous dit, voilà, mon fils, ma fille, ma tante, ma sœur a disparu. J'ai plus de nouvelles. Du jour au lendemain, plus rien. Comment vous travaillez? Parce que vous n'avez pas les mêmes prérogatives que les policiers et les gendarmes.
Non. Chaque enquête est différente, mais globalement, quand on nous attribue un dossier, dans un premier temps, on va lire vraiment minutieusement toutes les informations que la famille nous a transmises par écrit.
Oui.
Et de bien voir les détails. Et c'est souvent là, d'ailleurs, qu'on va voir si c'est une disparition potentiellement volontaire ou non. Et après, ce qui est primordial, c'est de contacter la famille. Parce que souvent, ils disent pas forcément l'ensemble des détails dans le dossier écrit. Donc, on apprend toujours quelque chose quand on communique avec eux. Ouais. Il y a forcément un contexte, un facteur qui a déclenché la disparition. Donc, c'est important d'avoir tous les éléments en notre possession. Et après, on va commencer à enquêter. Pour ma part, moi, je combine les enquêtes numériques et l'enquête de terrain.
Ça se passe comment?
Et du coup, l'enquête numérique, alors ce qu'on appelle aujourd'hui de l'OSINT, c'est de la recherche en source ouverte. C'est des informations. C'est des informations qu'on peut trouver en ligne tous. Il faut juste savoir chercher correctement. Ça va être sur les réseaux sociaux, sur des sites de sociétés. Après, c'est du regroupement d'informations en fouinant un peu. Voilà, et du coup, c'est comme ça qu'on fait les recherches.
On associe des noms, des photos, oui. On remonte des lieux. C'est du petit poussé, entre guillemets.
C'est vraiment du regroupement d'informations avec différents outils. On va faire de la recherche plus poussée avec des opérateurs, des moteurs de recherche différents. On ne va pas forcément utiliser que Google qui ressort principalement les mêmes informations. Donc, il faut avoir un spectre plus large avec des moteurs de recherche différents comme Google, Yandex, Yahoo, etc. Après, il y a la recherche d'images inversées aussi qui peut permettre, moi, dans un de mes dossiers, par exemple, c'est comme ça que j'ai retrouvé assez facilement la trace d'une disparue. Parce que en fouinant justement sur les réseaux, j'avais potentiellement trouvé une piste et pour confirmer le lieu, j'ai fait de la recherche d'images inversées.
Donne une image.
Qu'est-ce que c'est, ça, une image?
Oui, c'est ça.
En fait, c'est dans les moteurs de recherche type Google, Yahoo, il y a un moyen de faire de la recherche inversée, c'est-à-dire qu'on met l'image. Et par exemple, moi, là, en l'occurrence, je cherchais où est-ce que la photo avait été prise. J'ai ciblé l'arrière-plan du village. Et en mettant dans le moteur de recherche d'image, ça m'a donné le lieu, en fait. Ça a repris toutes les photos où il y avait les mêmes images. Et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé le lieu où la personne était. Ça a confirmé.
C'est assez fascinant. Est-ce que vous avez, Philippe, vous, des dossiers qui vous ont particulièrement marqué ou vous avez trouvé des éléments déterminants?
Tous les dossiers sont différents, donc ils marquent tous un peu plus ou moins. Bon, pour ma part, j'ai retrouvé une personne serbe qui était donc devenue SDF depuis 2017 dans Paris et qui malheureusement, à la demande de sa famille, c'est arrivé, il fallait le retrouver. Donc, ça m'a pris quand même un bon moment, ça m'a pris quand même 5 bons mois. Et donc, j'ai réussi en mettant des jalons à droite à gauche et en provoquant la chance de retrouver ce fameux Zoran. Et donc, on pourra parler un peu aussi des disparus, des ressortissants français qui disparaissent aussi. Lui, c'était le cas. Donc, j'ai réussi par le biais de l'ambassade de Serbie, avec la directrice et secrétaire générale, d'obtenir un laissez-passer consulaire. Et j'ai emmené Zoran et son ami à Roissy. Et il a retrouvé sa famille. Et bon, c'était un beau happy end, comme on dit.
Yes, et happy end. Ouais. Et comment ça se passe quand vous pressentez ou que vous comprenez que c'est une affaire criminelle?
Là, c'est différent parce que forcément, c'est déjà bien lancé. Si on suppose que c'est une affaire criminelle, déjà on oriente la famille en disant attendez, il y a quand même quelque chose, il y a des choses qui vont un petit peu clocher, comme on dit. Donc là, on leur dit, il faut aller quand même voir. C'est une disparition inquiétante, parce que le législateur, on a arrêté les RIF, les recherches d'intérêt des familles, qui existaient depuis 1947, en gros après la guerre, et ça s'est terminé en 2013. De là, le législateur a décidé de faire des disparitions volontaires, des disparitions inquiétantes. Donc, quand on a des suspicions, qu'on dit, attendez, il y a quelque chose qui est quand même bizarre, là, on les oriente quand même, on leur dit, il faut quand même aller voir la police de gendarmerie.
Madame Charpie, le rapport avec la généalogie, en généalogie, on cherche des gens dans les affaires d'héritage, c'est ça?
Oui,
savoir s'il y a encore un vivant, s'il y a encore un héritier qu'on aurait oublié, c'est ça? C'est un peu le même...
Ouais. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors moi, j'interviens aussi parce qu'on a on pense souvent aux héritages, effectivement. Après, il y a aussi le besoin aussi parfois de retrouver des ayants droit d'un bien immobilier, d'une parcelle, dans le cas, d'un projet immobilier avec un promoteur ou des communes. Il y a beaucoup de communes. Moi, je travaille principalement avec l'outre-mer où il y a des soucis d'indivision. Donc forcément, il faut retrouver tous les ayants droit d'une parcelle. Donc moi, je suis là pour faire ces recherches-là.
Ce qui vous a donné ce goût de la recherche et donc était précieux pour les familles. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes. Passionnant de vous recevoir ce dimanche.
J'ai décidé que j'allais faire du journalisme inversé.
Eh ben faites du journalisme inversé.
Comme l'image inversée.
Tant que vous êtes là, soit inversé ou pas,
journalisme
ça me va.
Journalisme 2.0.
Merci beaucoup, Dominique.
Merci, c'est Marion Bordier.
À dimanche prochain. Passez un bon dimanche sur BFM TV. À très vite.
Affaires Suivantes sur BFM Radio.